Le journal de la rédaction avec vous, Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Des violences pendant le défilé du 1er mai à Paris hier et qui ont en grande partie éclipsé les enjeux syndicaux de la fête du travail. Le secrétaire général de la CGT exfiltré avant le départ du cortège, une intrusion violente à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et plus de 300 personnes placées en garde à vue à Paris. Décryptage avec nos reporters dans ce journal.
Dans le cortège du 1er mai au Venezuela, une femme a été tuée pendant la manifestation à Caracas.
Un reportage à suivre avec Benjamin Delisle sur place.
Et puis comme tous les jours depuis lundi, la caravane des Européennes de France Culture.
En amont du scrutin du dimanche 26 mai prochain. Gros plan ce matin sur les Pays-Bas. Nous serons en direct avec Pierre Bénazé. Et puis comment lutter contre la disparition massive des espèces? Une restauration de la biodiversité est en cours pour redonner à une rivière la richesse de son écosystème. Précision avec Lauriane Avare. Et puis la question du jour, Florian.
Léonard de Vinci peut-il réconcilier la France et l'Italie? On posera la question tout à l'heure à Marc Lazare.
315 personnes en garde à vue à Paris après la manifestation du 1er mai hier, selon le parquet de Paris. La préfecture de police a dénombré de son côté 330 interpellations et plus de 15 000 contrôles préventifs effectués par les forces de l'ordre. Dans la capitale, le cortège est parti de Montparnasse pour rejoindre la place d'Italie et a été marqué par plusieurs scènes de violence, dont certaines ont éclaté avant même le départ de la manifestation syndicale. Sous les yeux de notre reporter Rosalie Lafarge, des Black Blocs avaient déjà noyauté le cortège et les forces de l'ordre ont immédiatement riposté.
Ah ouais, ça y est, ça part.
Ça tire, les gars, faites gaffe.
Tout le monde déteste la police.
Non, changez, reste pas là.
Ça va péter.
On a des encerclements, ça va être plus de ma mère.
C'est la guerre.
Ah, y a le bloc en bas, là, il fout la hala, ça commence.
On nous charge, on nous gaze, et voilà, c'est tout. On peut ni avancer, ni reculer, on peut rien faire.
Ils sont en train de faire un massage cardiaque, un mec à manger.
C'est normal qu'on soit énervé maintenant. Tellement qu'ils vont mettre par la gueule.
C'est fait gazer, matraquer, taper dessus. Bah non, maintenant la police, on la veut plus avec nous.
On a la haine, on a la colère. Voilà. Quand on donne, il faut savoir recevoir.
Un début de cortège très agité au micro France Culture de Rosalie Lafarge. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a été exfiltré du cortège sans avoir pu défiler en début d'après-midi, évacué par les forces de l'ordre. On y reviendra dans le journal de 8h. 164 000 personnes ont défilé hier un peu partout en France, 300 000 personnes selon les syndicats, 40 000 manifestants à Paris selon le comptage du cabinet indépendant Occurrence, mandaté notamment par Radio France. Quel bilan tirer de cette mobilisation concernant l'influence des syndicats malmenés? On l'a entendu. Élément de réponse avec Hakim Kasmi.
Pas de bannière syndicale à l'arrivée d'une manifestation du 1er mai à Paris. Une situation quasi inédite que dénonce Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui préfère pointer du doigt les forces de police et qui ne veut surtout pas entendre parler d'une éventuelle perte de vitesse des syndicats au profit du mouvement des Gilets jaunes ou des Black Blocs.
Les Gilets jaunes ne connaissent pas les syndicats, donc ils sont un peu réticents. Paris, c'est pas la France. Dans beaucoup d'endroits, ça fait bien longtemps que les manifestations, elles se font ensemble, qu'ils viennent dans nos locaux pour faire leurs assemblées. On a les mêmes revendications. Enfin, hausse du SMIC, personne ne peut dire que c'est pas une revendication de la CGT. Justice fiscale, plus de services publics, c'est ce qu'on porte depuis des années. Donc c'est plutôt bien, il faut que ça continue.
Même idée peut-être, mais dans cette bataille de communication entre le gouvernement et les syndicats, force est de constater qu'il existe une fracture avec une partie des Français qui ne croient plus aux corps intermédiaires et aux partis politiques traditionnels. Ce que regrette fortement Bernadette Groison, la secrétaire générale de la FSU.
Si vous voulez, nous, on vient pour manifester de manière ordinaire, pouvoir parler de nos revendications, pouvoir amener derrière nous des gens sans prendre aucun risque pour eux. Et donc, dans une telle situation, on a malheureusement, et je dis malheureusement parce que c'est assez douloureux, vous savez, quand on est syndicaliste, de se dire qu'on ne peut pas manifester le 1er mai. Il y a vraiment beaucoup de tristesse, de colère et beaucoup d'incompréhension aussi.
Alors, en attendant, si on constate un phénomène grossissant de l'ultra-gauche, il est encore difficile de dire s'il s'arrêtera ou pas.
Hakim Kasmi.
Et puis parmi les événements qui ont marqué la journée d'hier, Sophie, l'intrusion de manifestants à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement.
Oui, que s'est-il passé exactement à la Pitié-Salpêtrière? Une question qui est forte ce matin en marge de ce défilé du 1er mai. Selon les premiers éléments dont on dispose, plusieurs dizaines de manifestants, certains le visage masqué, d'autres en gilet jaune, ont forcé l'accès. Ils sont entrés dans l'hôpital, ils sont parvenus jusqu'à la porte du service de réanimation. C'est là qu'ils ont été stoppés par le personnel de l'établissement qui est intervenu intervenue avant l'arrivée des forces de l'ordre. La directrice de la Pitié-Salpêtrière, Marianne Ruder, a, comme tout le monde, comme tout le personnel, été choquée par cette intrusion.
Quand vous voyez des dizaines de personnes qui arrivent vers vous en train d'essayer de défoncer une porte et que vous avez en charge des patients, leur seule obsession, ça a été de protéger les patients de réanimation. Et fort heureusement, les policiers sont arrivés à pied et en moto au moment où la porte était soumise à pression. Et donc leur intervention a été cruciale parce que la situation était particulièrement critique. C'est vrai qu'on est tous quand même profondément choqués par une intrusion de cette force. On est un service public hospitalier et on joue notre rôle. C'est vrai que cette intrusion a été quand même très éprouvante pour l'ensemble des personnels hospitaliers.
Des propos recueillis par Thibault Lefèvre. Christophe Castaner s'est rendu sur place hier soir. Le ministre de l'Intérieur va plus loin pour qualifier cette intrusion violente.
Les gens ont attaqué un hôpital. Les infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation.
La direction de l'APHP a annoncé son intention de porter plainte. D'autre part, une journaliste de l'AFP présente hier a vu des manifestants se réfugier dans l'enceinte de l'hôpital, qui fait plusieurs hectares, pour échapper aux gaz lacrymogènes sur le boulevard de l'hôpital, avant d'être pourchassés par les forces de l'ordre et certains interpellés.
Et puis, manifestation pour le 1er mai aussi, du côté du Venezuela.
Oui, à Caracas, des rassemblements étaient annoncés. Ils étaient annoncés tendus, ils l'ont été. De nombreux affrontements ont opposé les forces de l'ordre et les manifestants anti-Maduro, en particulier dans la capitale vénézuélienne. Si le soulèvement militaire de la veille n'a pas permis de renverser Nicolas Maduro, il aura tout de même redonné espoir à de nombreux manifestants. Reportage à Caracas de notre correspondant de RFI pour France Culture, Benjamin Delisle.
C'est dans une ambiance festive en chanson que les partisans de l'opposition rejoignent l'un des 14 points de concentration de Caracas. Le plus important, celui d'Altamira, déborde de monde. De nombreux manifestants comme Laurente, 21 ans, n'avaient pas prévu de venir.
Je suis de ceux qui avaient perdu l'espoir. Le changement n'arrivait pas, ça prenait trop de temps. Mais hier, l'espoir est revenu et c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Hier, c'était une vraie étape vers la fin de l'usurpation.
Même si le soulèvement militaire n'a pas fonctionné, les manifestants continuent d'y croire. D'ailleurs, une partie de la foule décide spontanément d'aller bloquer l'autoroute face à la base militaire de la Carlota. Des soldats tentent de disperser la foule. José, 18 ans, décide de leur faire face.
Les militaires doivent changer, sinon le Venezuela ne va pas changer. Pour qu'on aille de l'avant, ils doivent faire leur part. Au lieu de ça, ils restent à l'intérieur, tirent des bombes lacrymogènes et des chevrotines.
Le voilà qui repart. Affronter la police, foulard sur le nez car l'air est irrespirable. Sur la bretelle de l'autoroute, les plus âgés les encouragent, comme Carlos, 50 ans.
Ce sont des jeunes humbles qui risquent leur vie pour nous défendre. Et ils n'ont que des pierres contre des balles.
Des rafales se font entendre, l'affrontement continuera toute l'après-midi sans que rien ne change à l'échelle du pays.
On apprend ce matin qu'une femme a été tuée par balle hier pendant la manifestation à Caracas.
7h08 sur France Culture, la suite du journal Sophie Delpont. La caravane des Européennes de France Culture s'arrête aujourd'hui aux Pays-Bas.
Oui, alors que le vote pour les élections législatives aura lieu le dimanche 26 mai en France, ce ne sera pas le cas pour les Néerlandais qui seront cette année encore les premiers à voter. Ce sera un jeudi, comme le veut la tradition néerlandaise, jeudi 23 mai. Les Pays-Bas votent pour la deuxième fois cette année après une nouvelle percée du populisme dont le parti le plus emblématique est crédité de 18% des voix par les sondages. Nous rejoignons tout de suite notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazé. Bonjour.
Bonjour, Philippe.
Aux Pays-Bas, comme dans le reste de l'Union européenne, la plupart des partis traditionnels sont à la dérive, en particulier les travaillistes et les centristes, une véritable recomposition d'un paysage politique en fragmentation où, à part les populistes, le seul autre parti en progression est celui de la gauche verte, qui fait désormais jeu égal avec les travaillistes.
Effectivement, les populistes en tête, la fusillade d'Utrecht, survenue deux jours avant les élections locales du 20 mars dernier, avait été qualifié de terroriste la veille de l'ouverture des bureaux de vote. Selon les politologues néerlandais, cet événement a contribué à la percée réalisée par le FVD, le Forum pour la démocratie. Il devient le premier parti au Sénat, ou plutôt la première chambre des États généraux, puisque tel est son nom officiel. Un parti dont les positions sont décrites comme populistes ou d'extrême droite, et son jeune chef de file, Thierry Baudet, lointain latin descendant de huguenots français, n'a eu qu'à affirmer qu'après ce nouvel acte terroriste, il fallait réformer les règles de l'immigration. Désormais, le FVD caracole en tête des sondages, devançant de quelques points les libéraux du VVD, parti du Premier ministre Mark Rutte. Il n'y a que 26 sièges pour les Pays-Bas au Parlement européen, ils en auront donc le même nombre, soit 5 députés. C'est tout de même un résultat considérable pour un parti qui n'existait pas il y a 3 ans. Le Forum pour la démocratie a perdu quelques plumes ces derniers jours à cause de désaccords à la tête du parti. Le numéro 2 a claqué la porte après avoir critiqué la volonté de Thierry Baudet de demander la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne, le Nexit. Ce parti, né de la campagne pour la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, a grignoté l'électorat de Geert Wilders et de son Parti pour la liberté, grâce apparemment à la personnalité beaucoup plus consensuelle de Thierry Baudet, qui, avec ses allures de dandy, polyglotte, pianiste, latiniste, séduit un électorat beaucoup plus large.
Merci Pierre Benazé en direct ce matin pour France Culture. Une restauration écologique est en cours, restauration de la biodiversité dans une rivière de la vallée de la Chevreuse sur 39 km. Cette rivière passe notamment sur le campus de l'université Paris-Sud à Orsay. Et c'est à ce niveau-là, sur 1,3 km, qu'un important chantier écolo est en cours, alors que se tient en ce moment le sommet du GIEC de la biodiversité où sont réunis 500 scientifiques à Paris. Voilà un exemple parfait de préservation de la biodiversité, mais pas que. L'idée, Lauriane Avard, c'est aussi de prévenir les risques d'inondation.
Car ici, en 2016, la rivière Livette est sortie de son lit. Un réveil brutal, 13 communes inondées. Alors ce chantier doit permettre de limiter les risques. Jérôme Rosanski est ingénieur pour le SIAVI, le syndicat de Livette.
Lors de l'aménagement de l'université, quand il y a eu des terrassements, eh bien, les remblais ont été mis dans les zones humides. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ces remblais pour recréer un champ d'expansion de crue. Parce que la zone humide va servir à la fois d'éponge et elle va stocker l'eau et relarguer au cours des saisons. La restauration écologique n'est pas antagoniste de la protection contre les inondations.
Fini les digues et les murs en pierre. Une protection illusoire pour cet ingénieur. Depuis quelque temps, la restauration écologique fait son chemin.
Il y a 10 ans, 15 ans, c'était presque impensable de dire je vais reméandrer la rivière, je vais supprimer des remblais et vous serez mieux protégés. Les personnes ne nous auraient jamais cru.
Maintenant, il faut que cela coule de source et vite. Ce type de chantier doit se généraliser pour faire face aussi au réchauffement climatique.
On sait que dans les années à venir, on aura de plus en plus des étiages sévères. C'est-à-dire qu'en été, on aura très peu d'eau. Et on sait que ça posera après des soucis en termes notamment d'activité, à la fois humaine et aussi écologique. Et donc, on cherche à gommer, on va dire, et à anticiper ces phénomènes.
Grâce à des travaux raisonnés pour concilier faune, flore et activité humaine, les abords d'Olivette auront un nouveau visage à l'été 2020.
Et dans le journal de 18h sur France Culture, on reviendra en longueur sur ce chantier de restauration écologique au bord de l'Yvette. Un mot de météo, de la pluie du nord au centre du pays aujourd'hui, temps instable partout ailleurs et des températures comprises entre 10 et 18 degrés ce matin.